France Culture, il est midi et demi. Le journal Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les agriculteurs à Paris et dans plusieurs villes de France, ils manifestent notamment contre la grande distribution accusée de tirer les prix vers le bas, mais ils témoignent également d'un ras-le-bol général. La clause du grand-père a du plomb dans l'aile, la réforme des retraites devrait s'appliquer à tous, c'est ce qu'a laissé entendre le Premier ministre. Une Europe verte, c'est l'ambition de la Commission européenne mise sur les rails aujourd'hui par le Parlement européen. La priorité de cette commission, peaufiner son pacte vert pour l'Europe. De ce journal, le journaliste d'investigation Laurent Richard. Nous reviendrons avec lui sur les démissions gouvernementales en série à Malte après l'assassinat en 2017 de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous Olivia.
Comment dire le monde d'aujourd'hui, ses crises et tenter d'imaginer l'avenir, littérature jeunesse, le rêve ou la conscience que privilégient les auteurs et les éditeurs. Aujourd'hui, on en parlera avec nos deux invités, les écrivains Jérôme Leroy et Vincent Villeminot.
À tout à l'heure. Environ 10 000 agriculteurs manifestent depuis ce matin dans toute la France. Ils bloquent plusieurs villes avec leurs tracteurs, notamment Toulouse, Lyon, Clermont-Ferrand ou encore Paris, où ils ont prévu de converger sur l'avenue Foch dans le 16e arrondissement. Objet de cette journée de mobilisation, faire monter la pression sur les négociations commerciales avec la grande distribution, une grande distribution accusée de tirer les prix vers le bas. Mais c'est un malaise plus global que les agriculteurs veulent mettre en évidence aujourd'hui, eux à qui on reproche plusieurs maux, notamment en matière environnementale. Illustration avec Christophe Le Rebourg, il est agriculteur à Gomès-la-Ville, dans l'Essonne. Ce membre de la FNSEA s'est rendu à Paris en tracteur. Manuel Ruffez l'a rencontré ce matin.
On a l'impression que les gens nous regardent avec beaucoup, beaucoup de suspicion, pour certains de la haine, parce qu'ils n'arrivent plus du tout à comprendre notre métier. On a beaucoup de mal à expliquer ce qu'on fait. Et les gens nous considèrent un peu comme je dirais des parias. Donc on devient les parias d'une société qui n'arrive plus à comprendre son agriculture.
Mal aimé.
Oui, mal aimé. Alors, est-ce que c'est un ressenti qui nous est personnel et qui n'est pas vraiment celui d'une population? Mais on arrive quand même aujourd'hui, lorsque je travaille avec mon tracteur et qu'on me lance des cailloux quand je passe le long des maisons, on a quand même l'impression qu'on est mal aimé, quoi.
Ça vous arrive, ça?
Bien sûr, oui. Des cailloux, des canettes de bière, se faire injurier, des plaintes en mairie, des plaintes en gendarmerie. Et ça toute l'année.
Alors on l'a entendu, le malaise des agriculteurs est multiforme et une revendication surnage depuis le début de leur mobilisation en octobre et même plusieurs années, celle du revenu. Bonjour Anne Lorchois.
Bonjour Antoine.
Cette demande d'un revenu décent, on rappelle que le revenu moyen par agriculteur est de 350 euros par mois, elle était censée être réglée via une loi votée l'année dernière, la loi dite Egalim, mais un an après Anne-Laure, le compte n'y est pas.
Le compte n'y est pas du tout, en effet. Un an après la promulgation de cette loi, pourtant issue de plusieurs mois de consultation, les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation. À Rungis, en ouvrant les débats, Emmanuel Macron avait pourtant promis que tout serait fait pour redéfinir la construction des prix dans l'alimentaire en partant des coûts de production pour arriver à un prix de vente qui rémunère correctement l'agriculteur. Pour cela, les filières étaient priées de se structurer mieux pour arriver à peser plus lors des négociations annuelles commerciales, ces fameux 4 mois de l'année où la distribution, l'industrie et les producteurs négocient donc le prix des denrées. D'autres mesures étaient votées également, l'encadrement des promotions notamment et le relèvement du seuil de revente à perte, le tout répété il y a 2 ans, donc Emmanuel Macron, reposant sur la responsabilité des acteurs. 2 ans plus tard, la Commission des affaires économiques du Sénat a constaté que si les prix des produits alimentaires ont augmenté dans les grandes surfaces entre 0,4 et 1,2%, les prix négociés par les 6 centrales d'achat de la grande distribution ont, eux, baissé de 0,4% sur l'année. Autrement dit, l'écart entre le prix d'achat au producteur et le prix de vente au consommateur s'est encore creusé. Et les coûts de production dans les filières n'ont, eux, pas diminué. Exemple, avec la filière du lait, l'indicateur défini par l'interprofession avait été fixé à 39,6 centimes d'euros minimum pour 1 litre de lait. Or, la majorité des contrats signés par les industriels tournent autour de 37 centimes d'euros le litre. La loi n'a donc pas tenu ses promesses. Beaucoup d'analystes l'avaient prévu. Du fait du manque de contraintes sur les acteurs, notamment la grande distribution, rien, en effet, n'a été imaginé pour la sanctionner si elle ne respecte pas les textes.
Merci à vous, Anne Lorchois. Y aura-t-il une clause du grand-père pour la réforme des retraites? Autrement dit, cette réforme ne va-t-elle s'appliquer qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail? Une façon de rendre la pilule plus facile à avaler? Eh bien, peut-être pas, si l'on en croit les dernières déclarations d'Édouard Philippe. Hier soir, lors d'une réunion avec les députés de la majorité, le Premier ministre a laissé entendre que la réforme s'appliquerait à tous. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Le Premier ministre le confirmera peut-être à la sortie du Conseil des ministres. Alors pourquoi, si il se confirme, cet enterrement de première classe?
Eh bien parce qu'accepter cette solution, c'est reporter la réforme au calende grec, c'est-à-dire 30-40 ans. Compliqué quand on veut afficher une ambition réformatrice. Pourtant, cette solution avait été envisagée par l'Élysée et Matignon. D'ailleurs, quand le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye avait exprimé son hostilité à cette clause du grand-père, il y a 15 jours, il s'était fait recadrer. Mais aujourd'hui, le gouvernement se dirige plutôt vers du sur-mesure, secteur par secteur. Pour bien comprendre, rappelons que ce qui est prévu par le rapport Delevoye, c'est une réforme qui s'applique à ceux nés après 1963. Et bien l'idée, c'est de décaler cette entrée en vigueur à des générations un peu plus jeunes, qui sont depuis moins longtemps dans l'entreprise. Emmanuel Macron dit entendre ceux qui ont 45, 50 ans et qui considèrent avoir noué un pacte social qui ne peut être remis en cause. Reste à savoir à quel secteur s'appliquerait cette transition plus longue. On pense bien évidemment aux transports, RATP et SNCF, mais ça ne satisfait déjà pas la CFDT cheminots. Le syndicat plaide pour la clause du grand-père stricto sensu, estimant que tous les cheminots au statut doivent conserver leur régime spécial. La CGT et Sud sont pour leur part hostiles à toute remise en cause de ce régime de retraite. Bref, pas facile aujourd'hui d'imaginer que cela peut suffire à arrêter un mouvement qui semble de toute façon bel et bien lancé.
Merci Anne-Laure Jumet. Quand les LR devancent La République En Marche, à l'occasion de son arrivée devant la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale, on vous reparle de la proposition de loi du député LR Aurélien Pradier sur les violences conjugales. Adoptée à la quasi-unanimité en première lecture, elle prévoit notamment la mise en place d'un bracelet anti-rapprochement, des ordonnances de protection plus efficaces et des facilités pour reloger les victimes de ces violences. Un texte porté par la droite parlementaire, donc, qui est venu à couper l'herbe sous le pied de la majorité, Rosalie Lafarge.
Il a réussi ce qu'on appelle un coup politique, Aurélien Pradier. Le jeune député LR a profité d'une niche parlementaire pour mettre son texte à l'ordre du jour en plein Grenelle et l'imposer donc plus tôt que prévu dans l'hémicycle.
Il n'y a aucune intention de doubler le gouvernement. Le gouvernement, ça fait 2 ans et demi qu'il est au pouvoir. Et donc on voulait simplement passer des paroles aux actes parce qu'on considérait que depuis 2 ans et demi, ça manquait d'actes.
Mais dans les faits, c'est bien ce qui s'est passé. Aurélien Pradier a doublé le gouvernement tout en contraignant la majorité à soutenir sa proposition. Et il se murmure que cela agace Marlène Schiappa. Face à lui, hier, dans l'hémicycle, la secrétaire d'État a d'ailleurs rapidement haussé le ton.
Cette question des mortes des femmes tuées par leur conjoint, elle est trop grave, monsieur Pradier, pour en faire une question de petit débat de politique politicienne comme vous essayez de le faire.
Du pain béni pour Aurélien Pradier.
La politique politicienne, c'est de ne rien faire depuis 2 ans et demi et de bavarder. Marine Schiappa est incroyable. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est ministre de ce gouvernement. Elle aurait pu faire beaucoup plus facilement que moi tout ça. Donc je veux bien qu'elle nous fasse un caprice aujourd'hui en nous disant que c'est pas elle et qu'elle est furieuse que ce soit pas elle. Moi, je me fous de savoir qui porte la patte. D'un texte. Ce que je veux, c'est que les femmes soient mieux protégées. Et ce que je constate, c'est que depuis 2 ans et demi, il aura fallu que nous, la droite républicaine, nous mettions tout le monde au pied du mur pour que ça avance.
Et il ne compte pas s'arrêter là. Aurélien Pradier a bien l'intention de renforcer encore son texte aujourd'hui en commission mixte paritaire. Si on peut aller plus loin, on le fera, sourit le tout nouveau secrétaire général de Les Républicains, désireux de montrer que là où le gouvernement parle, la droite républicaine, elle, agit.
L'École nationale de l'administration, l'ENA, présente une réforme de sa scolarité aujourd'hui alors qu'elle est menacée de suppression par l'un de ses anciens élèves, Emmanuel Macron. Et la suppression de l'ENA, c'est un serpent de mer redevenu d'actualité avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais l'école se défend de mener cette réforme interne juste pour éviter sa suppression, Diane Berger.
Au programme, plus de terrain pendant les stages de la première année de l'ENA et pendant la seconde, la scolarité ne sera plus centrée sur l'apprentissage de grandes matières, mais sur l'acquisition de compétences pratiques, des compétences qui sonnent comme des réponses à de récents reproches faits à l'administration. Patrick Gérard est le directeur de l'école.
Quelquefois, on nous dit, les hauts fonctionnaires, ils n'ont pas assez la connaissance du terrain, ils font pas assez attention aux gens, ils mesurent pas toujours les conséquences de leurs actes. Donc ce qu'on veut faire, par exemple, à travers ces enseignements, c'est d'essayer de regarder comment on adapte le service public aux évolutions de la société, aux évolutions techniques, comment on fait adhérer nos concitoyens à un projet de transformation, comment on regarde les conséquences qu'il a au niveau le plus humble et à mesurer jusqu'au bout quel est l'impact d'une politique publique.
D'après lui, cette refonte de la scolarité était prévue depuis une décision de 2018. Pas de lien donc officiellement avec le grand débat, les gilets jaunes et la volonté d'Emmanuel Macron de supprimer l'ENA. Et pour l'instant, le directeur se dit prêt à revoir profondément la formation des hauts fonctionnaires.
On est donc dans une idée qu'il faut transformer l'ENA. Il y aura toujours une école de la haute fonction publique. Donc en attendant, on ne va pas priver les élèves d'une réforme qui paraît utile pour eux. L'école, elle continue tant qu'on n'a pas décidé de son avenir. Peut-être qu'il faudra aller plus loin après en fonction des décisions que prendront le président de la République et le Premier ministre.
L'exécutif a confié quant à lui à l'avocat Frédéric Thirier une mission sur l'avenir de l'ENA et sur sa possible suppression. Son rapport est attendu pour le début de l'année 2020.
On va vous parler maintenant d'une histoire de famille, de droit et de religion. Une histoire étonnante qui ressurgit aujourd'hui devant la Cour de cassation. Elle est saisie d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, par le fils de Jacques Fesch, un homme de 27 ans condamné à mort et décapité en 1957 pour avoir tué un policier lors d'un braquage. Bonjour Florence Turme.
Bonjour.
Jacques Fesch, dont le parcours spirituel en prison, a par ailleurs incité l'Église à ouvrir une demande de béatification.
Oui, en février 1954, Jacques Fesch, un jeune homme de bonne famille, attaque un bureau de change de la rue Vivienne à Paris. Le braquage tourne mal et il tue le policier lancé à sa poursuite. Condamné à mort, il sera guillotiné à 27 ans dans la cour de la prison de la Santé. Mais durant ces trois années de détention, le prisonnier se convertit au catholicisme, entreprend une longue démarche spirituelle et rédige de nombreux textes qui seront d'ailleurs publiés à titre posthume et qui impressionne le cardinal Lustiger. C'est lui qui est à l'initiative de cette enquête canonique en vue d'une béatification, enquête lancée en 1987 et toujours en cours. De son côté, le fils de Jacques Fesch se bat pour obtenir sa réhabilitation. Depuis qu'il a découvert sa filiation avec le condamné, il y a seulement une vingtaine d'années à la faveur d'un article de presse. Depuis sa naissance, il ignorait tout de ses origines, même si l'accusé avait laissé un message à son intention juste avant d'être exécuté. Georges Fesch obtient d'abord l'autorisation de porter le nom de son géniteur. Persuadé que le procès n'a pas été vraiment équitable, il lance alors de nouvelles démarches. Mais si la justice s'est déjà penchée sur des demandes similaires, elle a par exemple prononcé la réhabilitation de Violette Nozière, la loi ne permet pas de réhabiliter un condamné qui a été exécuté. D'où cette question prioritaire de constitutionnalité, soumise ce matin à la Cour de cassation, qui doit décider de la transmettre ou pas au Conseil constitutionnel. Une réhabilitation resterait toutefois symbolique, mais elle représenterait aux yeux du fils de Jacques Fesch une autre forme de rédemption, celle-là sur un plan judiciaire.
Merci Florence Turme. Une Europe verte, c'est l'ambition de la Commission européenne, mise sur les rails aujourd'hui par le Parlement européen. Réuni en session à Strasbourg, les eurodéputés ont validé à la majorité l'équipe proposée par l'Allemande Ursula von der Leyen. La priorité de cette commission sera de peaufiner son pacte vert pour l'Europe, dont les grandes lignes devraient être annoncées dès le 11 décembre prochain. À Bruxelles, la correspondance d'Angélique Bois.
Devenir le premier continent climatiquement neutre au monde, voilà l'ambition d'Ursula von der Leyen. Et pour y arriver, elle a promis des mesures concrètes dans les 100 premiers jours de son mandat. Elle est très attendue sur le sujet, estime l'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann.
Le Green New Deal, c'est véritablement le projet des 5 prochaines années. C'est ce qui déterminera en fait si cette commission est un échec ou une réussite.
Taxe carbone aux frontières, plan d'investissement de 1000 milliards pour développer massivement l'économie verte. Tous les secteurs, et pas uniquement les transports, l'isolation ou les renouvelables, seront concernés, explique Pascal Canfin, le président de la commission environnement au Parlement.
C'est pas seulement le climat, le Green Deal, c'est aussi la santé, c'est la question des pesticides, la question des perturbateurs endocriniens, c'est la biodiversité, la question de la politique agricole commune, par exemple, et c'est la question de l'économie circulaire avec les plastique.
Pour Greenpeace Europe, on est peut-être à un tournant, admet son porte-parole, Marc Bredy, à condition que les mesures prises soient radicales et rapides.
Dans le secteur des transports, par exemple, interdire les vols en dessous de 500 km et les remplacer par du rail, taxer le plastique, Le plastique, c'est du pétrole. Placer des panneaux solaires sur tous les nouveaux bâtiments qui sont construits en ce moment. Ce qui compte, c'est les mesures qu'on peut prendre maintenant.
Légiférer vite et fort, un véritable défi pour l'Union européenne qui ne se construit qu'avec des compromis.
Au lendemain de la mort accidentelle des 13 militaires français au Mali, beaucoup d'interrogations subsistent et la France, qui a déjà payé un lourd tribut à la guerre contre les djihadistes au Sahel, paraît isolée face aux groupes terroristes qui pullulent dans la région. Même si la ministre des Armées, Florence Parly, prend soin de rappeler le soutien des Européens pour nous protéger du terrorisme, Bertrand Galichet.
La France reste bien seule sur le terrain et les Européens ne se bousculent pas pour lui venir en aide au Sahel. Car pour l'essentiel, la contribution des autres pays se résume à la mission d'entraînement de l'Union Européenne au Mali, dotée d'un budget de 60 millions d'euros, un effort salué hier par la ministre française des Armées.
Nous recevons un soutien précieux de nos alliés européens et unissons nos forces pour protéger l'Europe du fléau du terrorisme.
Depuis 2013, le UTM tente de remettre en ordre de bataille une armée malienne mal entraînée et sous-équipée. Ni le soutien logistique, ni le renseignement n'ont évité aux militaires maliens harcelés par les djihadistes des échecs et de lourdes pertes. Face à l'urgence, la France tente de fédérer des forces spéciales de différents pays pour contribuer à la lutte contre les groupes terroristes. Sans résultat jusqu'à présent, l'engagement de ces militaires étant trop sensible pour les opinions publiques, donc pour les gouvernements. Un paradoxe, alors que l'Union européenne s'inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel.
Alors qu'Israël se cherche toujours un gouvernement et que le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait face à plusieurs inculpations, dont une pour corruption, ce dernier appelle les Israéliens à le soutenir. Ainsi, hier soir, son parti, le Likoud, ainsi que plusieurs mouvements de droite, ont organisé une manifestation à Tel Aviv. Les organisateurs revendiquent 25 000 participants, mais en réalité, ils étaient autour de 3 000. Des manifestants peu nombreux donc, mais convaincus, comme l'a constaté notre correspondant Frédéric Mettezo.
Le peuple exige une justice juste. Les supporters de Netanyahou ont le même vocabulaire que leur idole. Coup d'État, injustice, manipulation.
On doit contrôler les juges et les journalistes. Sinon, il n'y a pas de justice. Comme en France. En Europe, dans tous les États, la gauche utilise la justice pour chasser la droite du pouvoir.
L'assistance est à l'image de la société, des laïcs, des religieux, des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux, mais ils sont peu nombreux. Hier soir, Bibi n'a pas mobilisé, lui-même n'est pas venu sur scène, même pas de message vidéo, mais sa base est toujours plus radicale.
La gauche ici, elle parle d'unité, mais elle fait tout le contraire. Ça se passe comme en Iran ou en Corée du Nord, mais ici, c'est Israël.
Je crains plus les gauchistes que les arabes ou les organisations terroristes, car le vrai terrorisme, c'est la gauche juive. Bibi, c'est le meilleur premier ministre, meilleur que Ben Gurion, meilleur que Begin, et je ne parle pas de Rabin. Rabin, c'était un ivrogne.
Israël est divisé comme jamais depuis 25 ans, comme depuis l'assassinat d'Itzhak Rabin.
Ciao.
Reportage signé Frédéric Mettezo. La petite île de Malte et son gouvernement secoués par des démissions en série. 2 ans après l'assassinat de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia, morte dans l'explosion de sa voiture piégée en octobre 2017. L'enquête, longtemps restée au point mort, accélère et l'étau se resserre autour du Premier ministre Joseph Muscat. Son chef de cabinet et son ministre du Tourisme ont démissionné hier. Tous deux sont au cœur d'une affaire de pot de vin sur laquelle enquêtait la journaliste peu de temps avant sa mort, Louise Baudet.
Effectivement, le premier s'appelle Kiss Chembri, c'est un homme d'affaires, ami personnel et chef de cabinet du Premier ministre. Le second s'appelle Konrad Mitzi, ex-ministre de l'énergie, passé au tourisme. Tous deux sont soupçonnés d'avoir reçu jusqu'à 2 millions de dollars d'une société basée à Dubaï, 17 Black, société dont le propriétaire Jorgen Fennec a été arrêté la semaine dernière alors qu'il tentait de quitter l'île à bord de son yacht. Ce puissant homme d'affaires possède plusieurs casinos et hôtels de luxe. Il est surtout l'un des propriétaires d'Electrogas, une compagnie qui a signé un contrat juteux il y a 6 ans avec l'État maltais pour construire l'une des 2 principales centrales électriques de l'archipel. Soupçon de rétrocommission donc, confirmé par le projet Daphné. Ce consortium de journalistes décidé à poursuivre
poursuivre le travail de Daphne Caruana Galizia. Un troisième proche de Joseph Muscat, le ministre de l'économie Chris Cardona, s'est également mis en retrait. Le projet Daphne a révélé qu'il fréquentait l'un des tueurs de la journaliste arrêtée 2 mois après le meurtre. Joseph Muscat, de son côté, exclut toute démission. Le premier ministre que Daphne Caruana Galizia accusait d'avoir fait de Malte une île mafieuse peu de temps avant son assassinat.
Invité de ce journal, Laurent Richard. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Forbidden Stories, association de journalistes attachés à continuer le travail de confrères menacés, arrêtés ou tués. Vous coordonnez à ce titre le projet Daphne. De quoi s'agit-il exactement ?
En fait, au lendemain de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia à Malte, avec 45 autres journalistes en Europe et dans le monde, dont des confrères du Guardian en Angleterre, du New York Times aux États-Unis, de Reuters ou de Radio France ou du journal Le Monde, on a décidé de poursuivre le travail de Daphne, mais aussi d'enquêter sur son meurtre, dans le but de révéler ce qui devait rester caché et d'enquêter sur des sujets extrêmement importants pour l'opinion publique européenne, puisque Daphne enquêtait sur des faits de blanchiment d'argent, de corruption, qui impliquaient au plus haut niveau de l'État maltais des personnalités extrêmement influentes et importantes.
Question de Louise Baudet.
Laurent Richard, pourquoi, à votre avis, l'enquête judiciaire a-t-elle autant piétiné ? Parce que là, ça s'accélère, mais ça suit des mois d'activité assez réduite, on va dire, des policiers sur ce sujet, alors que le projet Daphne avait multiplié les révélations déjà.
Oui, je pense que l'enquête a piétiné et risque de piétiner encore parce qu'il y a un grand nombre de personnalités proches du pouvoir ou au pouvoir impliquées dans des affaires de corruption sur lesquelles Daphne travaillait. Et que si l'un tombe, d'autres vont tomber. Et c'est aussi sans doute pour ça que l'enquête judiciaire criminelle a aussi peu avancé pendant près de 2 ans. Là, il y a un rebondissement important avec un intermédiaire qui a été arrêté et qui a donné des informations sur la chaîne de commandement et comment l'assassinat aurait été exécuté, commandité et opéré. Et on assiste depuis quelques jours à quelque chose d'absolument historique dans cette île au milieu de la Méditerranée, où il y a eu effectivement plusieurs départs, démissions, autosuspensions, arrestations de ministres, suspecté d'être impliqué dans le meurtre de Daphne.
Vous parliez de cet intermédiaire, effectivement, dont l'arrestation a vraiment relancé l'enquête il y a 2 semaines. Il se trouve qu'il a été arrêté dans le cadre d'une enquête de blanchiment d'argent menée en coopération avec Europol. Ça, vous pensez que c'est essentiel, le fait que des enquêteurs autres que Maltais sont intervenus dans l'affaire ? Ça a pu justement déclencher ces révélations en Syrie ?
Je pense que la présence d'autres forces de police internationales ou européennes aux côtés des forces maltaises est un élément clé dans le rebondissement qu'on est en train de vivre, parce que justement il y a un tel niveau de corruption, une corruption qui est réellement endémique au sein de l'île de Malte, que l'enquête ne peut pas avancer toute seule s'il n'y a pas un peu de pression internationale et un regard avec un peu plus de transparence là-dessus. Depuis le début de l'histoire, au lendemain de l'assassinat, le FBI a prêté main forte, Europol, Interpol, et donc il y a eu, je pense, un gros travail aussi en coulisses diplomatiques pour que dans cette île qui appartient et dans ce pays qui appartient à l'Union européenne et qui doit donc du coup partager les valeurs de l'Union européenne, en tout cas pour ce qui est de la lutte contre l'impunité judiciaire, il y a eu effectivement une pression et une accélération de l'investigation judiciaire.
Justement, et très concrètement, de quoi parle-t-on ? Malte est-il un État corrompu ? Vous disiez que Daphne Caruana Galizia travaillait sur de nombreuses autres affaires. De quoi parle-t-on concrètement ?
En fait, ça remonte aux Panama Papers, par exemple. Quand les Panama Papers sont sortis, Daphne a vu que dans la base de données, dans ces millions de documents, il y avait 2 personnes au gouvernement qui possédaient des comptes offshore qui devaient être alimentés par une société qui s'appelait Setan Tindak. Et on est quand même dans une démocratie où 2 membres du gouvernement ont un compte offshore, on le sait, et ils n'ont pas été.
Ceux-là même qui ont dû démissionner. Mais quel autre type?
Ceux-là même qui ont dû démissionner récemment. Daphne a enquêté sur des faits extrêmement graves, d'autres histoires très différentes. À Malte, par exemple, il y a un business du passeport. C'est-à-dire que les autorités maltaises vendent parfois des oligarques russes, chinois ou autres des passeports maltais, donc des passeports européens, en contrepartie d'1 million d'euros et de certains investissements faits sur l'île de Malte. Donc ça, c'était quelque chose de très inquiétant et concernant pour la Commission européenne et l'Union européenne, de savoir qu'un des membres de leur pays pouvait finalement attribuer des passeports européens. Et Daphné enquêtait sur des faits de corruption du quotidien, de la vie économique maltaise, d'une station d'énergie aussi qui était soupçonnée de recevoir de l'argent en provenance d'étrangers, de rétrocommissions en contrepartie de l'attribution de certains marchés publics. Elle enquêtait sur tous ces faits-là et c'est ce qui lui a coûté la vie.
Merci à vous Laurent Richard, merci également à Louise Baudet. Cet après-midi, temps mitigé sur une majeure partie du pays, alternance de nuages, de pluie et d'éclaircies. Seul le sud-ouest bénéficiera d'un soleil dominant. Températures douces et homogènes, 12 à Cherbourg, 13 à Paris, 16 à Biarritz, 19 à Nice. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Pommier.